بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères en islam, nous complétons ce soir, inshallah, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous avait mis en garde contre sept choses qui peuvent toucher l'être humain. Certainement, une de ces sept choses touchera chaque personne parmi nous, et certaines personnes pourraient être touchées par cette chose unique qui est la mort qu'on va voir ce soir, mais également par d'autres épreuves. Et parmi les épreuves citées par le prophète alayhi salatu wassalam, une richesse qui te détourne d'Allah, ou une pauvreté qui te détourne d'Allah, ou un état de santé, de maladie qui te détourne d'Allah, ou un état de fatigue et de vieillesse qui t'empêche de continuer l'adoration d'Allah azza wa jal. Et la conclusion, à chaque fois qu'on a vu un de ces points, on a conclu en rappelant que ce n'est pas là une fatalité. C'est pas parce qu'Allah t'a donné les biens de ce monde. Non, ça va aller. Barakallah fi. Ce n'est pas parce qu'Allah t'a donné les biens de ce monde que tu vas obligatoirement te détourner d'Allah. La wallah. Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, faisait partie des personnes les plus riches des Quraysh à Mecca, mais également de la société à Medina. Donc il y a eu des personnes qui avaient les moyens, tant à Mecca, à Medina et dans le monde musulman, quelles que soient les époques, mais ils ont utilisé ces bienfaits, parce qu'ils le reconnaissaient comme étant des bienfaits de la part d'Allah, ils les ont utilisés, fit ta'an dans le droit chemin. Également, une personne peut être touchée par la pauvreté. Bilal, radiallahu anhu, qui était descendant d'esclaves affranchis donc par Abu Bakr al-Siddiq, n'était-il pas une personne extrêmement pauvre? Bien sûr, mais malgré ça, cette pauvreté ne l'a pas détourné du droit chemin. Ce qu'on a essayé de rappeler en conclusion de chaque partie, c'est que si la personne, si un croyant, s'empresse de rester ferme dans le droit chemin en accomplissant les bonnes actions et en s'éloignant des péchés, quelles que soient ses situations, quelles que soient ses épreuves qu'il pourra vivre un jour, ces épreuves-là, premièrement, ne le perturberont pas. La richesse ne détournera pas la personne du droit chemin, ni la pauvreté, ni la maladie. Et en plus que ça, Allah Rabbul Izzat, dans sa clémence concernant par exemple la maladie et la vieillesse, Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, dans sa générosité, demande aux anges d'inscrire, ça c'est la troisième fois qu'on dit, d'inscrire les mêmes récompenses que la personne, correspondant aux actions que la personne avait l'habitude d'accomplir quand elle était en bonne santé. Le hadith n'est pas uniquement pour la personne malade ou âgée, c'est également pour le musafir. Le hadith est également pour le voyageur. Si quelqu'un en hadar, en période, dans sa maison, on va dire en période normale, la personne a l'habitude d'accomplir la prière de la nuit, qiyam al-layl, d'accord ? Et en voyage, il va en métropole ou autre, vol de nuit, ben il ne peut pas faire tahajjud, c'est compliqué dans l'avion. Ben Allah, dans sa clémence, sait, et dans son ilm, dans sa connaissance qui est infinie et qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs, Allah Rabbul Izzat sait pertinemment que ce serviteur, s'il n'était pas dans cette situation de safar, aurait accompli le tahajjud, le qiyamul layl. Allah Azza wa Jalla ordonne aux anges d'inscrire les actions du qiyamul layl, même s'il était en train de dormir sur son siège dans l'avion. Ça, c'est le karam d'Allah, la générosité d'Allah Azza wa Jalla. Il est important de savoir comment est-ce qu'Allah agit avec nous. Ce n'est pas uniquement comment nous devons agir avec Allah. Comment nous devons agir avec Allah? Nous prions, nous faisons le dhikrullah, nous lisons le Qur'an. Mais comment est-ce qu'Allah agit avec nous? Ce que nous essayons de faire parfois comme pas vers lui, comme minimum d'efforts, ben Allah Azza wa Jal l'accepte et nous donne plus de récompenses qu'on ne le mérite. Parce que wallahi, nous jurons par Allah Azza wa Jal que nos salawat, celles que nous avons accomplies ensemble, elles ne ressemblent en rien aux salawat que les sahaba accomplissaient derrière le Nabi alayhi salatu wassalam. Oui ou non? Notre salat ne ressemble pas à celle d'Abu Bakr, de Omar, Uthman, de Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira, Al-Amir ibn Al-Jarrah, radiallahu anhu majma'in. Malheureusement, nos prières sont très éloignées de la prière des sahaba. Mais c'est uniquement par pitié qu'Allah nous accepte. C'est qu'Allah a pitié de nous. C'est pas qu'on est fort. C'est pas qu'on est là, on répond présent. On est les porteurs du drapeau de l'islam, on ne peut pas oublier tout ça. On ne vaut rien. À partir du moment où tu as intégré que tu ne vaux rien, et qu'Allah n'a pas besoin de toi et que tu as grandement besoin d'Allah et que tu dois faire des efforts et Allah va t'accepter en fonction de ta bonne intention de tes efforts, ben là, on va avancer avec humilité. Là, on va avancer avec humilité. Et dans le nouveau bab qu'on va voir peut-être ce soir ou la semaine prochaine, il y a ce fameux hadith qui est, à mon sens, un des hadiths fondateurs dans notre relation avec Allah. C'est lorsqu'Allah Rabbul Izzah nous rappelle, hadith connu également, que celui qui se rapproche de lui d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. Il a réalisé les autres métaphores jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal rappelle que quand une personne fait un pas vers lui, Allah fait deux pas. Donc on réalise que ce n'est pas la quantité d'action qu'Allah regarde, ce sont les efforts. Et qui dit effort, dit obligatoirement sincérité. Mujahada doit être accompli, doit être accompagné de ikhlas. Et avec ikhlas plus mujahada, avec niyat de istiqama, avec l'intention de bien faire, de le faire régulièrement. Là, nous allons aborder, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde cet honneur, longue vie, fit-ta'a, et l'honneur de vivre, balighna Ramadan. Ben, nous avons deux catégories de personnes, ceux qui vont démarrer le Qiyam al-Layl durant ce mois, mais de façon, Mashallah, régulière et intensive, mais avec cette conviction que le tahajjud, c'est la prière du mois de Ramadan. Et après Ramadan, khalas, on plie le sajjada, tout comme on referme les Qur'an, Allah musta'an. Et Allah est le seul juge, Allah connaît ce qu'il y a dans le cœur, mais la personne qui accomplit les bonnes actions avec sincérité et avec nia, l'intention, dès dans ta tête même, quand tu commences l'action, dis que ça je vais le faire à long terme, tout le temps. Mais subhanallah, cette action-là, elle a beaucoup plus de valeur auprès d'Allah. Ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas que les deux personnes qui commencent le Qiyam al-Layl à 1h30 du matin jusqu'à 4h30. Ce n'est pas la quantité, le nombre de raka'at. C'est la sincérité, l'effort et l'intention de l'istiqama, de fermeté et la soumission à Allah Azza wa Jal. Donc les deux points qui nous restaient à voir, va compléter le hadith de Abu Huraira radhiyallahu anhu, il restait trois points. Aw mawtan mujhiza, aw ad-dajjal fa sharru ghaibin yuntazar, aw as-sa'a fa as-sa'atu adha wa amr. Les trois dernières situations que le prophète a citées. La première, enfin, première qu'on cite ce soir, donc, ça c'est une fatalité, c'est le maut. Cette mort qui attend chaque être humain. Cette mort qui est, on pourrait dire, suspendue à notre cou à partir du moment où nous avons connu les premiers lieux de cette journée, les premiers lieux de ce dunya. À partir du moment où on a commencé à respirer l'air de ce dunya, quand on est venu au monde, notre date de retour auprès d'Allah était déjà inscrite. En yamut al-insan wal-maut, en commentaire, le muhadithin dit que personne, bien sûr, n'échappe à la mort. Le verset est très connu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Et il y a un hadith qui est un peu moins connu, de lequel le prophète alayhi salatu wa salam avait demandé aux sahaba, ayyul mu'mini akyas. Quel est le croyant le plus intelligent? Quel est le croyant le plus clairvoyant? Le visionnaire, ça englobe tous ces termes-là. Il n'y a pas un terme précis en français. Ce n'est pas uniquement intelligent. Parce que quand on pense à intelligent, c'est quelqu'un qui a, mashallah, que son intellectuel élevé, qui est là. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est clairvoyant, qui est visionnaire. Il sait exactement où est-ce qu'il faut mettre les pas et qui sait où est-ce qu'il va et quel est son objectif. Il y a la personne qui a tout compris. La personne qui a tout compris. Nombre de personnes extrêmement intelligentes qui n'ont rien compris. Nombre de personnes qui possèdent, mashallah, des diplômes, qui prendraient le mur d'une masjid pour afficher, de licence, de master, de doctorat, de thèse, d'antithèse et de foutaise, enfin, plein de choses. Mais tout ça ne font pas de ces gens-là des personnes clairvoyantes. Nombre de personnes apportent beaucoup à l'humanité à travers leurs recherches scientifiques, à travers leur action humanitaire. Ce sont des choses, mashallah, louables, positives. Mais les personnes ne se sauvent pas eux-mêmes. Il va aider des populations, des milliers de personnes qui ont faim, amadoun salih, sans le moindre doute, mais sa vie va dans les actions humanitaires, le réunir l'argent ou les conteneurs de nourriture pour envoyer, ce sont des bonnes choses, mais la personne ne prie pas. La personne ne fait pas la salat. C'est-à-dire que la personne est en train d'aider des gens, mais la personne ne cède pas en premier. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit au Coran, « Ya alladhina amanu, qu'ou, hafiza, qu'ou, premièrement, anfusakum. Deuxièmement, wa, révise un petit peu là, wa, ahlikum. Première position, qu'ou anfusakum. Sauvez-vous. Il dit que c'est lâche, sauvez-vous. Non, c'est pas sauvez-vous, fuyez. C'est sauve ta peau en premier. Awalan. C'est toi qui m'en pratique en premier. C'est pas tu donnes des conseils aux gens et toi tu vas dans le sens, ça n'a pas. Ce n'est pas cohérent. وأنفسكم وأهليكم نار. Ensuite vos proches. Fais en sorte que personne n'aille dans le vers le mauvais chemin. Et donc, vous avez demandé donc ayul mu'mini akiyas, quel est le musulman le plus intelligent, clairvoyant, le plus visionnaire, celui qui a tout compris? Et le prophète alayhi salat wa salam a répondu, c'est, j'ai pas le hadith sous les yeux, mais c'est le sens du hadith, aktharuhum dhikran lil mauti, celui qui pense le plus souvent à la mort. Celui qui pense le plus souvent à la mort, c'est lui qui a tout compris. Pourquoi il a tout compris? Parce que les ulama disent que la personne qui pense régulièrement à la mort, Allah Azza wa Jalla lui donne trois qualités. Enfin, peut-être je m'en souviendrai d'un ou deux. J'ai pas le charh, c'est un autre mawdou', mais c'est en rapport avec ce qu'on dit. Première qualité, ta'jilu tawba. La personne demandera tawba rapidement. C'est-à-dire que s'il arrive, il lui arrive de se tromper. Est-ce qu'il y a un être humain dans cette assemblée qui ne commet pas de péché? S'il est là, qu'il se lève. Mafi. Ma yumkin. Est-ce qu'il y a un insan qui dit, moi je ne fais pas de péché? Abadan, abada. Depuis Ramadan dernier jusqu'à là, on est bientôt Rajab, pas un péché. Personne. À part le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui est doué de perfection. Autrement, comme j'aime bien le dire, ce ne serait pas Ibrahim, Ishaq, Umar et Uthman ou Ali ou alors Abdullah qui serait notre nom. Ce serait Jibril, Mikaël, Israfil et ainsi de suite. Nous serions des malaïkas, des anges. Là, chaque personne accomplit des péchés. Mais, ta'jil al-tawba, c'est le signe d'une personne intelligente. S'il nous arrive d'accomplir un péché, quelle que soit la nature du péché, immédiatement, demandez pardon à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est signe de kamalul iman, de perfection de la foi. Ça rejoint le verset que, subhanallah, on a beaucoup, beaucoup cité, mashallah, walladhina idha fa'alu fa'ishatan. Ceux qui, lorsqu'ils ont accompli un péché. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, reconnaît qu'il est dans la nature de l'homme d'accomplir des péchés. Ça arrive. Walladhina idha. Ça ne doit pas être tout le temps, mais si ça arrive. Walladhina idha. فَعَلُوا فَعِجَا أَوْ ظَلَمُوا نُفْسَهُمْ qui se font du tort, ذَكَرُوا اللَّهَ, immédiatement ils pensent à Allah. Alors que le fasiq, Allah nous protège du fisq en arabe, pas du fisq en français, hein, ça c'est notre problème. Allah nous protège du fisq, des péchés qui sont ancrés dans le cœur et dans les habitudes, qui deviennent tellement une habitude qu'on ne s'en rend même plus compte. Ça c'est la pire des choses. Eux, enfin, cette catégorie de personnes qui accomplissent des péchés au quotidien, ben, quand ils accomplissent ce péché, ils ne pensent pas à Allah du tout. C'est-à-dire qu'ils n'éprouvent aucun remords, ni aucun regret. C'est quelque chose de normal. Wallah musta'an, combien de fois? Je ne peux pas vous dire le nombre de fois dans des situations où on voit des personnes qui sortent de la mosquée, on les voit à la boulangerie, on les voit à tel endroit. Immédiatement, ils voient la vendeuse, autres font la bise. Là, récemment, il y a quelques jours encore, mais j'ai pas pu rattraper le bonhomme. J'ai pas pu rattraper, je cherchais une façon un peu plus sage de lui dire, quelqu'un qui sort de la mosquée, Allah Musta'an, et qui trouve, c'était pas une dame de la rue, ben je sais pas quoi, immédiatement fait la bise. Et on a bien compris que c'est pas sa sœur, c'est pas sa maman, c'est pas sa fille ni sa nièce, on a bien compris. Yani, quand ça arrive une situation où tu ne te rends même pas compte, maintenant si quelqu'un est jahil, l'ignorant est pardonné par Allah. Mais le devoir, maintenant, c'est nous. À nos vagues, coup de bâton. Si le alim ne dit pas, n'explique pas, ne fait pas la da'wa illallah, c'est lui qui sera responsable. Mais voilà, musta'an, la personne qui parfois s'habitue au péché, le mu'min, lui, il pense à Allah tout de suite. Et il pense à Allah, c'est-à-dire, il se rappelle qu'Allah est au-dessus. Mutali'un alayh. Qu'Allah est dessus de lui. Qu'Allah alimu bidati al-sudur, yasma'u wa yara. Comme Allah Azza wa Jalla avait dit à Moussa alayhi salam et Harun alayhi salam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Là, c'était le ma'iyatullah de protection. Il y a le ma'iyatullah de muraqaba aussi. Qu'Allah te voit, t'entend, n'oublie pas, Allah t'observe, donc ne commets pas de péché. Allah te voit, t'observe, t'entend, donc pas de manquement par rapport à tes devoirs envers lui. Allah t'observe, t'entend et te voit, donc n'aie aucune crainte, Allah est avec toi. Donc le ma'iyatullah, le fait qu'Allah soit avec toi, c'est pour que tu sois motivé pour les bonnes actions, pour que ce soit un frein et une réflexion dans le cyclone des péchés, quand tu es entraîné par tout le monde ou par tes shahawats, tes passions, mais également un rappel, quand tu as besoin de l'aide d'Allah, ou quand tu as peur d'un ennemi, ou quelqu'un qui te fait du mal, n'oublie pas. Allah est avec. Donc, ce mu'min, ce muttaqi, s'il accomplit le péché, dhakarullah, immédiatement, fa. Et le fa en arabe, c'est comme le wa, c'est-à-dire et, mais le fa, ça montre là, l'enchaînement. Fastafru. Et donc, Et immédiatement, la personne demande istighfar li dhunubihim. Et Allah rappelle au man yaghfiru dhunuba illallah, qui pardonne les péchés si ce n'est Allah. Illallah. Le tawhid, la ilaha illallah, la ma'abouda bihaqqin illallah, il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite d'être adoré par Allah, mais c'est également se rappeler que le seul qui pardonne, c'est Allah. Le seul vers qui on lève les doigts, les mains pour demander quoi que ce soit, c'est wayyaka nasta'in, c'est Allah. Le seul qu'on invoque, c'est Allah. Quand on accomplit des péchés, on n'a pas besoin d'aller voir Fundi, d'aller voir le Mufti, d'aller voir le Moulissab, j'ai fait tel péché, est-ce que... À la limite, si tu le demandes, c'est comment il fait Toba, oui, mais on n'a pas à se confesser, nous, auprès des êtres humains. Ça, c'est entre nous et Allah Azza wa Jal. Donc, ça ne veut pas du tawhid que réaliser que Allah, c'est le seul qui peut pardonner. C'est lui seul qui mérite qu'on s'agenouille, qu'on se prosterne, qu'on se rabaisse devant lui pour demander pardon pour les erreurs. D'accord, Allah, fastaghfiru dhunubihim. Et Allah rappelle, mais yaghfiru dhunuba illallah. Et après, voilà, yusirru. Après, quand ils ont accompli ce péché, ils ont demandé Toba, ils ne recommencent pas. وَلَمْ يُصِرُّ إِصْرَارُ C'est répété. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا Et il ne recommence pas. Et là, le tawba est accepté par Allah. Donc, première qualité qu'Allah accorde à celui qui pense régulièrement à la mort, ta'jil le tawba. Immédiatement. Il ne va pas attendre. Et on pourrait voir le contre-exemple. La personne qui ne pense jamais à la mort ne pensera pas demander tawba. Parce qu'il a une impression qu'il a encore l'éternité. Encore jeune. C'est pas grave. Et Shaitan va amener toutes les excuses. Encore jeune, c'est pas grave, c'est pas le moment. Plus tard, Ramadan arrive, ce sera le moment. Tu t'es inscrit pour le Hajj là-bas, tu vas demander pardon à Arafat. Il a réalisé Dhalik et Allah seul sait si tu es encore vivant dans un mois, deux mois, trois mois, ou si l'ange de la mort n'a pas déjà repris ton âme avant que tu n'aies plus demandé pardon à Allah. Parmi les qualités qu'Allah accorde de celui qui pense souvent à la mort, Allah t'accorde le qana'a, la satisfaction de ce qu'Allah t'a accordé. Alors que celui qui ne pense pas à la mort, il en veut toujours plus. Ce qu'on avait expliqué la dernière fois, la seule chose qui remplit son ventre, c'est « at-turab », la terre. Parce que la personne ne réalise pas que d'un moment à l'autre, il quitte ce dunya. Et que quand il quitte ce dunya, tout ce qu'il a pu amasser, cumuler, ça, il n'emporte pas avec lui dans son qabr. Il ne l'emporte pas dans sa tombe. Alors que celui qui pense à la mort régulièrement, ce qu'il a, il s'en suffit. Et il ne cherche pas à monter encore plus de bâtiments ou aller travailler plus. Il sait qu'à un moment donné, je retourne auprès d'Allah. Donc, il se limite à ce qu'Allah lui a accordé. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Parce que celui qui pense souvent à la mort, il a eu le basira. Il a eu la clairvoyance. Il a tout compris en fait. Si tu penses régulièrement à la mort, c'est que tu as réellement compris que le verset « وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِي إِلَى اللَّهِ » Craignez ce jour, vous serez ramené vers Allah. Celui qui craint le jour, il sera ramené vers Allah. Est-ce qu'il va faire les mêmes bêtises que celui qui ne croit pas là? Est-ce qu'il va dire que bon, demain c'est dimanche, ou alors demain il n'y a pas l'école, donc khalas, pas besoin de venir à Fajr, on met mon réveil pour 8h30, pour aller acheter le pain et je prends mon dire « حَوْلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ » Ma relation avec Allah ne dépend pas de la lettre cyclonique, des cours de madras ou de là, wallah. C'est ma'idi, mon rendez-vous, ma relation avec Allah, mon lien de serviteur avec Allah Azza wa Jal, et non pas dépendant des avis des gens, des créatures. C'est vraiment une prise de conscience, c'est une vision. Et cette vision-là qu'on a besoin de développer. On va clôturer ce point avec un hadith qui fait le lien entre nos jours, les jours où nous sommes vivants, parce que si vous écoutez ce discours, et si je le prononce, c'est que nous sommes encore ahya, nous sommes vivants. Et ça, c'est un ni'ma de la part d'Allah. C'est un ni'ma d'être encore vivant, parce que tant qu'on est vivant, on peut encore changer les choses. On peut encore demander tawbah, on peut encore changer notre vie, on peut encore faire l'intention de revenir vers Allah. Et Allah Rabbul Izzah accepte la personne qui fait un pas vers lui. Alors ce hadith nous permet de prendre conscience des actions qui nous seront profitables même après notre mort. Vous savez que quand une personne meurt, son suhuf al-a'mal, son livret d'action est fermé, c'est terminé. Et le livret d'action lui sera remis quand? Le jour de Qiyama. Wa kullu insanin azalnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Chaque personne recevra son livret de compte et Allah demandera iqra kitabak. C'est, lis ton livre toi-même, kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Et donc maintenant, après ma mort, est-ce qu'il est possible d'augmenter mon quota de bonnes actions? Oui, il est possible. Il est possible. Wassam nous a cité les exceptions. Hadith de lequel le prophète alayhi salatu wassalam parle, idha mata ibn adam inqata 'amaluhu illa min thalatha. Lorsque le fils de Adam, l'être humain meurt, ses actions sont clos. Le livret d'actions est clos. Sauf trois catégories d'actions. Illa min sadaqatin jariya. Ça, on avait un peu cité la dernière fois en conclusion, mais c'est pas grave qu'on reconclue avec ce verset, avec ce hadith, une action sadaqa jariya, une action, une aumône permanente. On appelle ça waqf ou les awqaf. Comme on avait dit, il y a un besoin dans tel pays qu'on se rend, puis on le fait. Un hôpital, on le fait. Une mosquée, Ahsan Shahid, c'est une mosquée, une madrasa. Soit on construit Kamilan, ou alors on contribue. Là, il y a le projet de la masjid Shafi'i en bas la rivière, subhanallah. Celui qui arrive à mettre 20 euros par mois, 50 euros par mois, subhanallah. Ça, c'est vraiment une lumière pour lui, ça. Ça, c'est sadaqatun jariya. Et en même temps, on donne pour la masjid Shafi'i en bas la rivière, et on donne pour la masjid Quwwatul Islam qui, mashallah, dans quelques temps, enfin, les travaux vont commencer, et ainsi de suite. Mais, et la madrasa qui également est en train d'évoluer, subhanallah. Mais tout ça, ce sont des investissements qui seront permanents pour nous. Et là, on ne voit pas sa valeur. Là, on voit juste un chiffre qui est débité. Mais quand on te pose dans la tombe, après les premiers coups de pelle, après les réponses des anges, ben, la personne réalise comment est-ce que cet investissement lui est maintenant profitable. Et il a cumulé ça pendant 5 ans, 6 ans, depuis 10 ans, il est adhérent, on pourrait dire, il donne, mais il a eu tout ce qu'il a gagné, il a donné, mais il continue à obtenir de façon permanente, parce que là, ce qu'il a construit, il y a des enfants qui continuent, qui y vont, qui apprennent le Coran, qui finissent, qui deviennent de bons musulmans, de cette mosquée, de ce puits, les gens continuent à boire, de cet hôpital, les gens, ils ont des soins, il arrête les aliques, ça c'est la meilleure des aumônes. Ou ilmin yuntafa'u bih, une connaissance qu'il a enseigné. Soit il a formé des personnes, des ulama, il a enseigné, il a donné l'ilm, soit il a écrit des kutub, quelle que soit la façon, le support, une connaissance qui sera enseignée, personne, génération après génération, ou, et c'est là que ça devient plus intéressant, parce que là on a des enfants ce soir, des jeunes, et donc des parents qui les accompagnent, ou, waladun salihun yad'u la, un enfant pieux qui va faire du'a pour toi. C'est-à-dire qu'un papa meurt et laisse des enfants qui prient, qui font leur cinq salats, qui jeûnent le Ramadan, qui lisent le Coran, qui font le dhikrullah, et qui vont sur ta tombe tous les jours, ou régulièrement, qui font du'a pour toi, ça c'est kunuz, min kunuz de dunya. Ça c'est un des trésors de ce dunya. Et encore une fois, vous savez, notre fierté là de ce dunya, c'est une personne, là dans l'assemblée, dit que mon fils est revenu de métropole, il est chirurgien, ou alors il est pneumologue, il est devenu neurologue, il a tel doctorat, il en est très fier. Il est fier aussi parce qu'il touche 14-15 000 euros par mois. La moitié, ça donne les impôts, mais ça, c'est une autre question. Il en est fier parce qu'il a réussi. Ça, c'est la réussite, ça. Quand il met le nom de son fils sur le cabinet, ça, c'est mon garçon. Il va faire selfie, il va faire tout Snapchat, il va faire Instagram, kilogramme. Il arrête les aliques pour montrer à l'humanité, à l'alamine, que ça, c'est mon fils, mon éducation a porté ses fruits. Voilà, mon fils s'appelle docteur. Un tel. Tayeb, ton fils, il est au cabinet de 8h30 jusqu'à 19h. Quand il rentre chez lui, il est KO. Il rentre et il retrouve sa vie de famille, il arrête là. Combien de fois il va sur ta tombe? Combien de fois est-ce qu'après chaque salat, il lit Wa qur rabbi rahimhuma kama rabbayani saghira? C'est ulama al-Fakhr al-Razi. Ibn al-Izz al-Hanafi, ou un autre alim de cette génération, il dit que le minimum, c'est qu'un enfant fasse doua 5 fois par jour pour ses parents. Ce verset, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Autrement, c'est un enfant qui est ingrat. Na shukriya, comme il dit, qui est ingrat. Et est-ce que ces diplômes-là, tu en es fier de ce dunya, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce qu'un enfant qui fait passer la carte vitale, tu obtiens un peu de hasana de ton qabr? La wallah. Sans dénigrer une quelconque profession, mais après, on peut avoir les deux en même temps. Personne ne peut réussir brillamment ses études, mais aham shay, qu'on ait donné une éducation correcte et sérieuse, islamique à nos enfants. Que nos enfants, ils réalisent que la priorité des priorités, c'est la salawat, les cinq prières. Et comme l'expliqua pour Maghrib, donne l'exemple. Quel que soit l'endroit, tu es en voyage d'un aéroport, montre à ton fils, même si lui ne pourra pas le faire, que papa ne rate jamais une salat. Et qu'il voit que le aham shay, que quand l'heure de la salat va se terminer, il voit que le papa, il est inquiet, il est angoissé parce qu'il risque de rater la salat. Et l'enfant va grandir avec ses valeurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité d'intégrer cette qualité-là, le fait de penser régulièrement à la mort, et qu'Allah nous accorde cette clairvoyance, quels que soient nos péchés, nos erreurs, nos manquements. Comme on a dit, tout le monde et pécheurs, mais les meilleurs parmi les pécheurs, c'est At-Tawwabun, ceux qui demandent pardon à Allah Azza wa Jal, demandent Tawba, pardon à Allah pour nos péchés, et demandent à Allah de nous donner la clairvoyance, la possibilité de penser régulièrement à la mort, et ce moment où nous retournons auprès d'Allah. Il y a quelques jours, il y a une jeune sœur qui nous a quittés. Tout le temps, il y a des personnes qui meurent, des personnes âgées, ou parfois des personnes qui sont jeunes. Mais quand c'est quelqu'un de jeune, ça nous touche. Elle avait quel âge? 29 ans. On se dit qu'en France, on meurt à 29 ans, on se dit que c'est impossible. Maladie, longue maladie. Elle laisse cette dame, cette sœur, rahimahallah, elle laisse une petite fille de 2 ans et demi, avec donc ce mari, qui est veuf. C'est difficile à accepter. Ça fait mal, les proches sont blessés, tout le monde est choqué. Mais subhanallah, c'est là qu'on réalise que nous avons tous un maw'id, un rendez-vous avec Allah. Quand cette jeune dame s'est mariée avec la personne qui est donc son époux, son mari, est-ce qu'elle pouvait savoir que sa vie allait se terminer à 29 là, wallah? Quand on démarre un projet, que ce soit professionnel, familial, vie de couple, on n'a pas de limite, on pense qu'on va vivre 77, 80, 85, on se base sur l'espérance de vie du pays. Parfois, on n'y pense même pas. Ça arrive quand un officier marié dit, bon, avant d'accepter cette fille en mariage, selon toi, tu vas vivre combien de temps avec elle? On dit, oh, casse pas l'ambiance là, imam. Casse pas l'ambiance, là on est dans un moment de joie. Viens pas me dire, est-ce que dans les cadeaux que tu l'offres, tu vas l'offrir à un kafan au cas où si elle meurt? Oh! Personne ne veut plus que tu officies des mariages. Parce que là, c'est un discours de joie. Mais ces réalités-là, on ne veut pas en entendre parler. Personne ne veut entendre parler de ça. Parce que la mort, on fuit. Et quand on n'y pense pas, c'est un signe que le cœur n'est pas prêt. On a dit, man habba liqa Allah, habba Allah liqa. Le mu'min doit aimer. Si malik al-maut vient, il doit être prêt à partir. Parce que rencontrer Allah, c'est le semant pour un croyant. Il dit, on commentait puis on terminera. Le prophète, avant de mourir, on sait qu'il avait répété, il a rafiq il a'la, il a rafiq il a'la. C'est-à-dire qu'il avait reçu la proposition de l'ange de rester encore de ce dunya, avec tous les bienfaits. Ou alors de retourner auprès d'Allah. Il a décidé de retourner auprès d'Allah parce que sa mission était terminée. Wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sa mission était l'annonce de sa mission, elle était faite dans Idha ja'a nasrullahi al fath. Il a décidé de retourner auprès d'Allah. Et en commentaire, les mu'arrikhin, ceux qui ont écrit le livre de Tariq, ils expliquent que tous les prophètes, avant de mourir, avaient reçu la visite de l'ange qui lui demande, est-ce que tu vis encore dans les bienfaits ou tu retournes auprès d'Allah? Et tous les prophètes avaient choisi de retourner auprès d'Allah, parce que ça c'est un signe, ça c'est une qualité du mu'min, il a envie de retourner auprès de son Seigneur. Mais ça c'est qu'on a la clairvoyance, qu'Allah nous l'accorde au ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.